L'ambiance est bonne et le café est bon.
Ah ça c'est vrai, on est très bien reçu.
Bienvenue nouveaux compagnons.
De la musique, de documentaire, etc.
20 minutes écoute notre émission.
Attention.
Hommage spécial dédicace.
Micro-sillon. Cool, une musique d'Anthony. Alors bienvenue à l'émission de décembre 2019. En premier,
la série de Jean-Pi et le bébé singe, épisode 6 de Rodolphe Orville. Allez les bébés singes, montrez-vous.
Aurélie, musique de Tony Marvin.
Antoine, Christophe Capello nous parlera du seuil de pauvreté et nous entendra sa musique Enjoy.
En 4, histoire d'une vie modulée proposée par Philippe Shark.
En 6, l'interview de Sylvie Desmaüs à la boutique Solidarité par Vincent Galzer, reportage 31.
En 7, Halte au mal-être, épisode 3, proposé par Roger Cavel.
Halte au mal-être.
En 8, Projection, une émission cinématographique présentée par Arnaud Terrasson.
Projection. Et donc en 9, on mettra Néo Philomoé, la rubrique philosophique d'Alban Wackadle. Et donc.
Merci à vous.
Tiens, Anthony.
Il est de passage.
Oh, président.
Toute l'équipe de Micro-Sillon et de l'émission vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Pensez à vous faire des cadeaux et restez à l'écoute sur microsillon.free.fr et sur nos radios partenaires. Microsillon, plus que des mots, une radio. Retrouvez-nous sur notre site internet microsillon.free.fr et sur nos radios partenaires.
C'est Microsillon et tant pis pour vous.
Ouais.
Bam.
Bam bam.
Et bonne écoute.
Et joyeux Noël.
Chers amis, bienvenue dans l'histoire de Jean-Pi et le bébé singe, une histoire racontée en 25 épisodes par votre ami Rodolphe Orville, d'après un texte de Claude Moirand, paru en 1963 aux éditions Hachette. Cette histoire, entièrement enregistrée sur bande magnétique, a été réalisée avec une musique sur pick-up stéréo tourne-disque. Petit détail, à l'écoute, si vous entendez un récurrent, c'est qu'il s'agit bien d'une fabrication artisanale. C'est le raccord de bande cassette. Réalisé en 1985 et remasterisé en 2018, de 63 à 2019, 56 ans plus tard, l'histoire est toujours là. Résumé général. Comment Jean-Pi, ayant récupéré par hasard un petit chimpanzé, est appelé à le faire adopter, non sans mal, par les habitants du pays des enfants. Aujourd'hui, épisode numéro 6, le monstre noir est toujours recherché. Résumé de l'épisode précédent. Les invités de Jean-Pi sont partis et ce dernier, après enquête, découvre dans son grenier, devinez qui ? Le monstre noir ! En réalité, un simple petit chimpanzé apeuré. Jean-Pi va essayer de le cacher, mais y parviendra-t-il ? Tout est là.
Quand Jean-Pi ouvre les yeux, il voit que le bébé chimpanzé n'est plus au bout de son lit où il l'avait installé la veille. Non, il a préféré aller dormir dans la corbeille de Capucine, où ils sont gentiment blottis, pattes brunes et pattes noires entremêlées, têtes l'une contre l'autre, dormant de bon cœur. Jean-Pi se garde bien de les réveiller et descend doucement l'escalier. En bas, il fait sa toilette, s'habille et prépare son petit déjeuner. À ce moment-là, on frappe à la porte. Jean-Pi va ouvrir. C'est un motard de la police routière, un garçon de 10 ans serré dans un uniforme noir. Derrière lui se tient Lisette, la fruitière. « Bonjour !» dit le motard en posant un doigt sur son casque. « Que s'est-il passé ici ?»« Ici ?» répète Jean-Pi. « Mais rien, pourquoi ?»« Parce qu'il y a eu beaucoup de bruit cette nuit, » explique le motard. Lisette ne pouvait pas dormir. Elle s'est mise à sa fenêtre pour respirer un peu et elle a entendu des bruits bizarres qui venaient de chez toi. J'avais des invités, répond Jean-Pi. Un peu bruyant, des invités. Ne sais-tu pas qu'après 10 heures du soir, il est interdit de faire du tapage avant la fleur? Jean-Pi ne sait trop que dire. En effet, peut-être Lisette a-t-elle vu partir ses invités et dans ce cas, elle doit avoir remarqué que le tapage provoqué par la chasse du chimpanzé n'a eu lieu que plus tard. « Excuse-moi, murmure-t-il, je ne savais pas. J'ai reçu des invités, ensuite je me suis amusé avec mon chien et puis je suis allé me coucher. Est-il encore arrivé quelque chose cette nuit ?»« Pas que je sache, » répond le motard, « mais Lisette pensait que ce bruit venait peut-être... » « Du monstre noir !» répond la fruitière qui est debout sur le seuil de son magasin et qui a suivi toute la conversation. « J'en viens, rire forcé. Croyez-vous que j'aurais dormi si j'avais eu un monstre dans ma maison » demande-t-il. « On ne sait jamais, » répond le motard, « une enquête est ouverte et nous sommes bien décidés à éclaircir cette affaire. Tu n'as pas lu la proclamation du maire ?»« Et non, » que dit-il. Toute personne qui cachera le monstre sera poursuivie comme complice. Et cela signifie la prison, puis l'expulsion du pays des enfants. De plus, le complice devra payer les dégâts. Compris ?
Oui, compris.
S'empresse de répondre Jean-Pi. Et ce monstre noir, si on le retrouve, qu'en fera-t-on ?
Je ne sais pas à quoi peut ressembler un monstre noir, répond le policier. Alors, je ne vois pas le genre de punition qu'on puisse lui affliger. Ben, on ne plaisantera pas, tu peux m'en croire.
Et si c'était simplement un farceur ?
La prison.
Une petite bête innocente.
Innocente ? Crie Lisette, folle furieuse. Tu n'as pas vu mon magasin ? En prison ! En prison ! En prison !
Jean-Pi referme.
Quelle affaire, murmure-t-il. Pourvu qu'on ne fasse pas de mal à Vanillas.
Jean-Pi ne voit qu'une seule solution. Ne rien dire, continuer à cacher le bébé chimpanzé, et quand les esprits se seront calmés, il ira le lâcher dans la forêt voisine.
Pour aujourd'hui, Vanillas restera donc enfermé avec Capucine.
S'il y a quelques tapages dans la maison pendant son absence, Jean-Pi pourra toujours prétendre que Capucine s'ennuie toute seule et qu'elle a fait des bêtises.
Il remonte dans sa chambre, s'approche de la corde.
Capucine fait ouvrir un verre.
Je te quitte, lui dit Jean-Pi à voix basse. Sois bien sage et veille sur ma glace. Pas trop de galopade, n'est-ce pas? Vous ne trouveriez en bas de quoi manger.
Capucine voile
et agite la tête comme si elle comprenait les paroles de son jeune maître. Jean-Pi passe dans la rue et constate alors avec ennui qui ne peut fermer sa porte à clé. Je sais qu'en effet, il n'y a pas de clé à Bourg-la-Fleur. C'est un pays sans voleur.
Tant pis. Jean-Pi risque le coup. Il espère que personne ne l'entrera chez lui pendant son absence.
Mais par précaution, il va dire deux mots à Lisette. Si tu entends du bruit chez moi, lui dit-il en riant, ne t'inquiète pas cette fois. Ce sera Capucine.
Pourquoi ne la prends-tu pas avec toi ?
Lui demande-t-elle d'un air un peu méfiant.
Elle ne se sent pas très bien.
Elle a dû trop manger hier soir.
Veux-tu que j'aille la soigner?
Non, merci. Elle a tout ce qu'il faut. Répondit Jean-Pi. Pour le moment, elle dort. Ce soir, elle ira mieux.
Mais si tu prie... Non, elle est énervée. Elle pourrait te mordre.
Et puis, comme je sais que tu crains les vilains monstres, je te dis en riant. Il s'en va, presque rassuré. En effet, Lisette, qui est peureuse, ne se risquera certainement pas à rentrer chez lui. Jean-Pi avait d'abord eu l'intention de raconter toute l'histoire à ses amis, mais il change vite d'avis en traversant la ville, car il s'aperçoit que l'on s'inquiète de plus en plus à propos de cette affaire. Et si ses amis ne gardaient pas le secret ?
C'était Jean-Pi et le bébé singe, raconté par votre ami Rodolphe Orville, d'après un texte de Claude Marin. Chers auditeurs, pour la suite, rendez-vous le mois prochain, même heure, même fréquence. En attendant, gardez votre âme juvénile. À bientôt!
Micro-sillon.
Hier, j'ai perdu l'amour de ma vie. Elle m'a dit, j'ai trouvé un autre mieux que toi, que tu ne connais pas. Bien sûr, j'étais dans l'esclavage, mais je l'aimais plus que tout, et je lui ai dit emmène-moi.
Hier, j'ai perdu l'amour de ma vie, il m'a dit j'en ai trouvé une autre, mieux que toi, que tu ne connais pas. Bien sûr, j'étais dans l'esclavage, mais je l'aimais plus que tout, et je lui disais emmène-moi.
Elle m'a quitté, la femme de ma vie. Elle m'a dit qu'elle a trouvé mieux que moi.
Hier, il m'a quitté, l'homme de ma vie, en me disant qu'il l'avait trouvé mieux que moi.
Cela ne fait rien.
Cela ne fait rien.
Même si on se voit de temps en temps.
Même si on se voit de temps en temps.
Quand tu t'approches de moi.
Quand tu t'approches de moi. Cœur balachamade.
Je revois notre fils me faisant des sourires, me tendant sa main.
Je revois notre fils me faisant des sourires, me tendant sa main.
Et il me disait emmène-moi avec maman.
Il me dit emmène-moi avec maman. Donne-moi une chance de réconciliation.
Hier tu m'as quitté, et aujourd'hui je te dis emmène-moi.
Et à l'intérieur,
c'est un peu différent.
Non merci.
retrouve aujourd'hui avec un bref coup de gueule de Christophe, dont on a d'ailleurs la chance d'entendre la composition musicale intitulée Enjoy, qu'il a réalisée et qui accompagne notre échange. Christophe, notre artiste préféré en musique électronique, qui va nous parler du seuil de pauvreté.
Bonjour, c'est Monsieur Capello Christophe de Microcyon. Alors aujourd'hui nous allons parler du seuil de pauvreté. Donc combien de gens sont sous le seuil de pauvreté en France? Selon l'INSEE, la France compte 8,5 à 8,6 millions de pauvres, soit environ 14% de la population de 2010 à 2012 et 20% des enfants. Le taux de pauvreté s'élève à 13,9% chez les ménages en 2012 et contre 14,3% en 2011. Pourtant la France est une grande puissance mondiale. L'augmentation pécuniaire des gens sous le seuil de pauvreté ne relancerait-elle pas l'économie ou la consommation? Bien sûr, le débat est ouvert à tout le monde. Voilà, je vais prendre l'exemple de l'AAH. À quand l'augmentation des AAH prévue par M. Macron? Pour moi, les solutions seraient de baisser les prix salaires des politiciens et des sportifs, voire de couches sociales bien aisées.
Alors tout d'abord, merci beaucoup à M. Capello de venir aujourd'hui. Donc moi, je suis Manon, service civique à Microcyon, et donc j'ai l'honneur de pouvoir discuter avec Christophe du seuil de pauvreté actuel en France et un petit peu de, bah, en tant que citoyen, la vie qu'on en a et puis aussi peut-être les solutions qu'on pourrait penser concernant ce sujet. Donc tout à l'heure, Christophe nous a proposé sa solution qui consiste donc à augmenter le pouvoir d'achat des personnes qui pour l'instant ont des moyens financiers assez réduits, ce qui permettrait selon lui de relancer l'économie française. Alors oui et non, disons que le monde se porterait bien. Malheureusement, les personnes dirige actuellement économiquement notre pays ne sont pas des salariés, donc à la limite cette redistribution pourrait selon moi avoir lieu au niveau des impôts en faisant voilà augmenter ou changer les stades, des stades qui caractérisent l'impôt sur le revenu. Voilà, après des solutions on pourrait en penser plein. En tout cas pour moi ce qui est important c'est que ça doit être collectif et ça doit être des alternatives pensées ensemble. Après quand vous parlez monsieur Capello de relancer l'économie, ça veut dire aussi rester sur un système capitaliste, et je pense que pour que les personnes défavorisées soient réellement prises en compte de façon réellement égalitaire avec les autres citoyens, il faudra sortir de la société capitaliste dans laquelle on est pour aller vers un autre modèle de société, mais ça ce n'est que mon avis. Écoutez, en tout cas je vous remercie d'avoir échangé vos réflexions là-dessus. Je voulais au passage signaler aussi que les chiffres que vous avez donnés datent de 2012, je ne sais pas s'il y en a des plus récents, mais en tout cas ce qui est assez alarmant, c'est que récemment l'État a fermé l'Observatoire national de la pauvreté, c'est-à-dire que avant il y avait un groupe de personnes professionnelles qui étaient employées à calculer, mesurer et identifier les facteurs de pauvreté sur le territoire, et il a été fermé récemment. Voilà, et ça je pense que ça laisse à réfléchir sur encore une fois les moyens qu'on donne pour ces personnes-là et l'importance qu'on a envie de leur laisser dans la société. En tout cas, je vous remercie, merci beaucoup.
Merci.
Alors donc, qu'est-ce que tu vois ?
Je vois des stries noires, des micro-sillons.
Des micro-sillons ?
Oui, avec l'arcane du monde et du fou, ça doit signifier la création sonore.
Sacré des sons ! Temps de voir ce que le futur nous réserve !
Je suis né le 2 mars 1952 et je suis issu d'une famille recomposée. Mon père était divorcé au bout d'un mois de mariage et ma mère était remariée lorsqu'ils se sont rencontrés à Nouméa en Nouvelle-Calédonie. Ma maman, née en 1910, a épousé un officier de la gendarmerie libanaise en 1929. Elle a eu une première fille en 1930 et une seconde en 1935. Ma maman a divorcé en 1944. Elle a fait la connaissance d'un Calédonien au Liban en 1945 et c'est en 1948 qu'elle a rencontré mon père. Ma maman s'est séparée de Calédoniens en 1949 parce qu'elle ne pouvait plus rester en Nouvelle-Calédonie. Elle a retracé mon père à son retour en France métropolitaine, qui était né la même année. Je suis le seul enfant de mon papa qui a eu un comportement qui m'a semblé néfaste. Cela m'a perturbé, un impact sur mon attitude. À l'âge de 5 ans, je ne parlais pas. J'ai été démutisé. À l'âge de 9 ans, comme à l'âge de 13 ans, j'ai été rejeté car les directeurs d'école primaire ne voulaient pas de moi. Je semais la perturbation dans la classe. À l'âge de 15 ans, je suis entré dans un pensionnat et j'ai terminé mes études primaires 2 ans plus tard. J'ai obtenu le certificat d'études à l'âge de 17 ans. J'ai poursuivi mes études secondaires dans des cours privés au niveau collège. Étudié le dessin industriel à l'école professionnelle, eu mon CAP à l'âge de 21 ans. À l'âge de 22 ans, j'ai terminé mes études secondaires et suis entré à la société Sony Duval Électricité. J'ai servi pendant 6 ans et 3 mois. J'ai été licencié en 1981 car j'ai été mentalement atteint à cause de la dépression nerveuse de mon père qui a pris effet en 1974. Et par la suite, j'ai subi les conséquences du premier choc pétrolier qui a pris effet en 1973 et j'ai cumulé des années d'ancienneté au chômage dès l'âge de 30 ans. Passé cet âge, je ne me voyais pas célibataire, ma situation matrimoniale n'était pas choisie. J'ai dû m'y faire une raison, je me suis senti rejeté. Dans les années 1980, ma mère a été ma curatrice. J'étais en situation d'handicap psychique. Je suis entré dans la vie active à l'âge de 22 ans avec un niveau que j'aurais dû acquérir dès l'âge de 19 ans. À l'âge de 40 ans, j'ai obtenu un emploi réservé au ministère de la Défense et au commissariat de la Marine à Paris. Un poste de magasinier, puis un poste de comptable à l'armée de terre. À l'âge de 46 ans, j'ai été congédié pour non-titularisation. La commission m'a déclaré inapte et j'ai dû me réinscrire au chômage. C'était en 1998. De 2000 à 2005, j'ai travaillé dans la sécurité au sein d'une société de gardiennage KV Canin. J'ai été chômeur pour une dernière fois de 2005 à 2010 et je suis entré dans un ESAT en tant que technicien d'espace vert, suis à la recherche depuis mars 2014. La retraite. J'ai eu plusieurs séjours à la clinique de Castelviel suite aux causes d'une enfance difficile. Ça va m'aller, c'est complémentaire. C'est la première fois que je parle à un micro comme ceci, mais dès que j'ai déjà fait avec plus de détails, il y a une dizaine d'années, je voulais écrire un livre qui s'appelait L'ESAT, veut dire le doyen de l'ESAT de Miguet. Un ESAT veut dire ce qu'on disait le CAT autrefois, qui était la personne la plus âgée, j'étais pas loin de la retraite aussi. Quand je suis entré, j'étais technicien d'espace vert, j'étais amené même à faire du conditionnement de temps en temps.
Alors, vous lisez ça avec beaucoup d'émotion. Qu'est-ce que, après avoir lu ce texte, comme vous venez de le faire, comment vous vous sentez? Quelles émotions vous ressentez? Ou qu'est-ce que vous auriez envie de dire?
Que c'est déjà une bonne chose d'avoir l'occasion d'en parler, de le lire, de se faire connaître de ce côté-là. Et aussi, il faut poser le pour et le contre, parce qu'il y a le positif, il y a aussi le négatif là-dedans.
On entend dans votre histoire que vous avez beaucoup voyagé, vous êtes, il y a eu du déplacement, il y a eu du mouvement.
Oui, j'ai beaucoup aimé les voyages. Mon père m'a donné goût au voyage quand j'étais petit garçon. Je me suis rappelé qu'à l'âge de 8 ans, j'ai fait le tour de France avec lui. Un an plus tard, c'était le premier voyage à l'étranger, c'était la Turquie, Syrie, Liban, une croisière par les lignes maritimes turques. Et bien plus tard, j'ai eu l'occasion de faire un tour en Suisse, dans le nord de l'Italie. C'est par la suite de voir les pays comme l'Allemagne, la Belgique, le Royaume-Uni, l'Espagne, les Pays-Bas. C'était les États-Unis et le Canada. Et dire c'est le Canada le pays qui m'a plu le plus dans l'ensemble. Attiré, parce qu'il aimait beaucoup le grand froid l'hiver, la raison.
Est-ce que vous pensez que voyager comme vous l'avez fait avec enfant ou plus tard plus adulte, ça vous a apporté des choses ?
Ça m'a apporté beaucoup de choses. Ça a été du positif, le voyage. Quoique la situation dans l'ensemble, le négatif voulait prévaloir dessus, ça a été positif, ce que j'ai fait.
Quand vous parlez du négatif, vous parlez de quoi ?
Négatif, c'est au niveau de mon état psychique, parce que je me suis senti rejeté. D'accord. Aussi. D'abord, j'étais rejeté dès mon enfance, des écoles primaires, et ensuite, je me sentais rejeté lorsque je voulais me marier, vers l'âge de 28-30 ans. Parce que je côtoyais des jeunes filles qui ne comptaient pas faire leur vie avec l'homme que j'étais. D'accord. À l'époque.
Donc du rejet, c'est ce que vous dites, ce qui est difficile, c'est pas tant la maladie psychique, mais les conséquences et le regard porté sur elle, oui. Et sur vous donc, et un sentiment de stigmatisation, de rejet que vous avez éprouvé durant votre enfant, de votre vie. Quoi.
Oui, il y a de ça, oui, entre autres. Il y a ça, il y a aussi des l'âge de 35, 36, 37 ans, me sentais rejeté du marché du travail parce que j'étais dessinateur industriel de métier, mais il y a une très grosse mutation parce qu'on est passé directement de la planche à dessin au DAO, le dessin assisté par ordinateur, et ensuite, une fois sur l'ordinateur, l'occasion de faire un essai, mais il y avait un défaut de rentabilité, alors on ne m'a pas gardé dans l'entreprise.
D'accord. Ça veut dire que vous avez été victime du changement technique, d'évolution, de modernité sur votre poste, à laquelle vous n'avez pas été formé
pour pouvoir continuer
à occuper votre poste.
Oui, il y a une formation DAO, et la formation m'a servi pour un essai qui a duré 6 semaines dans
et
le métier.
Et vous avez été licencié pour quelle cause ?
Manque d'efficacité pour le travail. Parce qu'il fallait faire plus vite aussi, la raison. Et question de rentabilité, ça, par la suite. Chose qu'on voyait dans les années 1980, quand, au début de la pénurie de l'emploi, dirais-je.
Votre chronique, votre témoignage, vous lui avez donné un titre, est-ce que vous pouvez nous le rappeler ?
Ça serait les suites d'une enfance difficile, donc j'avais du mal à réaliser les causes.
Est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui... ces causes, maintenant, vous les réalisez ou en partie vous les... Est-ce que c'est quelque chose qui a, sur lequel ça a bougé ?
Eh bien, j'avais du mal à réaliser encore il y a 2 ans, quand j'étais à Castelviel, que j'avais le suivi avec les psychiatres, et j'ai commencé à le réaliser une fois de retour dans mon domicile parisien, veut dire au début de l'année 2018, alors qu'on est parlé à mon psychiatre de ville de ça. Et ça a été le motif d'un retour à la clinique de Castelviel.
D'accord. Et maintenant, vous revoilà ici. Qu'est-ce que, sur cette idée de réaliser la cause, est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous pensez que ça a encore bougé ou est-ce que maintenant, ça vous est important de réaliser les causes ou ça ne vous est plus important ?
J'ai appris qu'il fallait mettre une croix sur le passé, mais ce n'est pas toujours facile d'effacer ce qui est du négatif. Oui. Les causes qui remontent.
Tout à fait.
Le temps de mon papa aussi.
Et prendre le risque, parce que je le dis le mot risque, parce que partager une biographie, c'est-à-dire son histoire personnelle, c'est quelque chose qui ne se fait pas toujours dans l'espace public, mais vous prenez ce risque-là de témoigner à la radio de votre vie et du regard que vous avez sur votre vie. J'espère que pour vous, ce sera encore un élan dans cette possibilité de pas de changer son histoire, mais de la regarder d'une manière plus... positif, c'est pas un mot, c'est pas mal, mais d'une manière qui vous convient le mieux, quoi.
Oui, c'est de voir la chose en positif par la suite. C'est ça, la raison d'en parler.
Eh bien, merci à vous pour votre témoignage. Et je sais pas, vous auriez quelque chose à rajouter ?
Je suis installé sur Toulouse définitivement depuis le début du mois de juillet. pendant tout le temps que j'habitais à Paris, je ne voyais pas les choses en positif, surtout le moment présent. J'ai l'impression que le bon temps appartient au passé. Parce que la science évolue très vite, mais malheureusement, on a l'impression que la société régresse dans le social. Ça vient très porté sur l'argent, comme ça l'a toujours été. Alors ça engendre des diminutions sur le pouvoir d'achat, et ça joue aussi sur le comportement de l'individu.
Tout à fait. Alors c'est une conclusion qui n'est pas très positive, mais qui est réaliste. Oui. En tout cas, on peut se poser la question de tout ce que vous dites. Peut-être ça nous ouvre sur une autre discussion. On va clore celle d'aujourd'hui et on verra peut-être la fois prochaine si on ouvre sur cette discussion d'une société de moins en moins sociale et comment dire, d'entraide qu'il y a quelques années.
Oui, c'est ça.
Merci pour votre partage. Au revoir.
Au revoir.
Écrire, flâner, découvrir, parler, se refléter, échanger, micro-sillon sur le web.
Agissons pour la sauvegarde de la nature. Mesdames et messieurs, bonjour. Étant donné l'actualité qu'on peut voir sur Internet, on constate qu'il y a 5 continents de matière plastique en désagrégation dans la mer. Plusieurs pays sont touchés par ce fléau, rien qu'à voir l'état déplorable de certaines plages. Le plus grave, c'est que les poissons, dans leur habitat naturel, mangent de ces déchets et on meurt. Nous ne savons pas si nous sommes, nous aussi, impliqués dans la même intoxication et faisons un appel aux dons pour en savoir plus. Pour en discuter, nous disposons d'une fois dans la semaine d'un lieu qui est élu à 56 boulevard Déodat de Sévérac, 31-300 Toulouse, le jeudi. En plus de débattre sur ces sujets, comme celui mentionné ci-dessus, qui nous tiennent à cœur, nous pourrions-nous y restaurer et écouter des concerts? L'invité cobaye animateur dans la radio de Canal Sud sera là de temps en temps pour exprimer et aussi y nous divertir. Veuillez agréer, mesdames, messieurs, l'expression de nos sentiments les meilleurs, Marvin, Tony, Thomas et Sang Emmanuel. Pour tout don de chèque, contactez Marvin Tourny par son mail tm3563@gmail.com. Je répète, tm3563@gmail.com. Retrouvez-nous le jeudi à partir de 19h au 56 boulevard Déodat de Sévérac.
Mon sillon, plus que des micros, sillon, une radio, sillon, microsillon.free.fr.
Des interviews diverses et variées,
de l'envoyé spatial, reportage 31,
Vincent,
bonjour, donc nous voici à la boutique Solidarité. Il va y avoir une marche, donc je suis avec une personne qui est venue participer à ce moment.
Oui, voilà, je m'appelle Sylvie, je travaille à Emmaüs, et Emmaüs est solidaire de la boutique Solidarité, et on manifeste avec elle la boutique pour avoir des nouveaux locaux qui soient dignes de recevoir du public, sans abri et en centre-ville.
D'accord. Comment vivez-vous cette situation assez difficilement, je suppose et injustement.
C'est comme il l'expliquait tout à l'heure, ça fait 5 ans qu'ils attendent de nouveaux locaux, que les projets sont repoussés à chaque fois, et c'est pas normal. Voilà. Il y a de plus en plus de personnes en difficulté en France, et notamment aussi la situation des personnes immigrées qui sont dans une détresse absolue, avec sur Toulouse beaucoup de gens hébergés sous tente, et il y a de moins en moins de moyens pour faire un accueil digne, au moins qu'ils puissent passer un petit moment en dehors de la rue, parce qu'on sait que la rue tue. Et là, c'était des moments où ils pouvaient se reposer, parce que psychologiquement, on est atteint quand on est à la rue.
Mais merci.
Merci.
Des interviews diverses et variées.
De l'envoyé spatial. Voilà, reportage 31.
Vincent.
Et juste même partager un même... 35% un tiers des Français qui indiquent être gênés à l'idée de partager un... qu'une personne atteinte de maladie mentale.
Tiens, pourquoi tu fais pis, Alban? Ah d'accord.
Bienvenue à la rubrique Halte au mal-être. Vous écouteriez Popcorn. Si vous n'étiez pas sur la version libre de droit de l'émission. Bonne écoute.
Je suis Roger. Je suis président de l'association Halte Mal-être pour la prévention du mal-être conduisant aux gestes suicidaires, principalement chez les jeunes. La dernière fois, nous avons évoqué le pourquoi de cette émission. Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles au 06 22 00 75 34. Nous avons vu précédemment les conséquences du mal-être qui peuvent être très graves. Maintenant, nous allons en voir les causes possibles sans avoir l'ambition d'être exhaustif. On les appelle les facteurs de risque. Elles peuvent provenir de problèmes intérieurs, du moi psychiatrique, de son ego, de la famille, des lieux de formation, école, collège, lycée, post-bac, université, centre d'apprentissage, etc. Des autres, de la société, de plusieurs sources précédentes à la fois, et quelquefois de toutes. On peut bien sûr faire d'autres classements. Nous allons nous attarder aujourd'hui sur le moi. Les problèmes peuvent être physiques, comportementaux, psychologiques. Au niveau physique, je peux avoir de la fatigue, des problèmes de concentration, des problèmes d'alimentation, comme la boulimie ou l'anorexie, sachant que je peux avoir alternance entre les deux, de la prise de poids et de la perte de poids. Et si je suis jeune, j'ai tous les tracas de la puberté, avec la transformation de mon corps, la mue de ma voix, de l'acné. Une maladie, il ne s'agit pas là d'un rhume, mais une maladie grave telle qu'un cancer. Un handicap, il est démontré que c'est un risque important. Je donnerai l'espoir en citant deux exemples. Philippe Croison, sans bras et sans jambes, a traversé la Manche à la nage. Marie Bochet, avec un avant-bras en moins, a gagné 8 médailles d'or aux Jeux paralympiques. Tous les athlètes paralympiques ou handisports, ces personnes ont une force mentale extraordinaire. Nous avons donc énoncé une série de risques potentiels liés au moi physique. Cela ne signifie absolument pas que l'on cumule tous les risques, bien sûr. Pour d'autres, les risques sont ailleurs. Lorsqu'un camarade, un proche ou un collègue ne va pas bien, il convient de déterminer quels sont ses problèmes pour l'aider. La prochaine fois, nous verrons les facteurs de risque liés au moi comportemental. Merci de votre écoute avec Microsillon.
Comme je le disais le mois précédent, je vous fais ramouner d'Ougico pour l'outro.
Je vais finir par faire du tofu quoi.
Vous êtes sur l'émission. Émission faite par des handicapés psychiques.
Alors, la boîte à édition, c'est le truc que l'on fait avec Nicolas Thierry.
C'est
truc direct.
Non, c'est toujours l'émission.
Oui, c'est toujours l'émission.
D'accord.
N'ayez pas peur de la maladie mentale, vous êtes déjà malade.
Projection. Projection. Grand public. Mainstream. Cinéma commercial. Underground. Film d'auteur. Le cinéma de genre. Le cinéma de genre. Fantastique, la science-fiction, la fantasy et autres cinémas de l'imaginaire. Comme les films d'horreur, comme les films d'épouvante. Projection. 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 Aujourd'hui, dans notre émission, une émission consacrée au doublage. Pour moi, le doublage, ça correspond aussi à des souvenirs d'enfance et d'adolescence, surtout, puisqu'on a grandi avec des voix, avec des voix qui nous ont marquées dans les dessins animés, dans certains films qu'on regardait quand on était adolescent. Notamment, on peut citer Retour à le futur, qui a des voix quand même marquantes. Parce qu'en fait, la première voix que j'ai reconnue, c'est mon père qui l'avait reconnue. On était en train de regarder Retour à le futur 3 avec ma sœur. Et mon père, en entendant la voix du doc, nous a dit « Ah, c'est la voix du juge dans Roger Rabbit ». Et non seulement c'était la voix, mais c'était le même acteur et le même réalisateur. C'est Christopher Lloyd qui jouait le rôle.
Marty ! Les pépins de la pomme de Newton, qu'est-ce qui s'est passé ici?
Ah oui, faut que je vous dise, mon fils a débarqué dans le bar, c'était la panique totale.
Ton fils? Nom de Zeus! Le somnambuleur, c'est bien ce que je craignais, comme je m'en suis servi pour Jennifer, il n'était plus assez puissant pour endormir ton fils une heure entière.
C'est quoi? Doc, 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 regardez ça.
Cet homme essaie-t-il d'enlever des indices trouvés sur les lieux du crime?
Non, monsieur le juge. Valiant les ramasser pour vous.
Depuis que j'ai Toonville sous ma juridiction, mon seul et unique but a été de réfréner les excès de la folie. Mais le seul moyen d'y arriver est d'obliger les Toons à respecter la loi.
On a plus de temps quand on double un dessin animé. On a plus de temps parce que ce ne sont pas des acteurs qu'on double, ce sont des dessins. Alors on a le temps, tout ça. Mais quand on tourne quand on double un film avec des grands acteurs, là, on est obligé de soigner. Il faut qu'on ait le même regard et la même respiration. Je viens du théâtre, donc je sais comment le jeu se fabrique.
Donc, on a grandi avec des voix dans les Disney et puis les séries animées qu'on regardait quand on était jeune. Et d'ailleurs, on peut dire que c'est comme les acteurs, comme les comédiens, c'est une question aussi de génération. À chaque période, on retrouve les mêmes voix. Roger Carrel et Philippe Dumas, notamment, qui ont souvent doublé dans les Disney, des personnages de Disney, y compris dans La Guerre des Étoiles. Ils ont tous les deux doublé dans la première trilogie Star Wars. Dans la série Columbo, dans les années 70-80, on retrouve à peu près les mêmes voix à cette époque-là. En fait, l'âge d'or du doublage, on peut dire que c'est les années 80-90, que ce soit Bruce Willis, Arnold Schwarzenegger ou Sylvester Stallone, Harrison Ford,